philosophie première par le père Dominique Philippe, le 6 mars 2002 à Saint-Judas.
Vous avez pu vous reposer pendant la retraite de Rimond. Nous en étions au corps, donc pourquoi on doit se reposer? C'est à cause du corps, c'est pas à cause de l'âme. L'âme a l'avantage de ne jamais dormir. Alors, c'est ça qui fait que de temps en temps, l'imagination nous empêche de dormir. Quand l'imagination est trop agitée, c'est-à-dire quand on est trop fatigué, l'imagination augmente ses voyages à droite ou à gauche, puisque l'imagination, c'est le corps, hein. C'est pas l'intelligence, c'est pas l'âme, c'est le corps. Les animaux ont aussi une imagination, mais l'instinct domine leur imagination. Tandis que chez l'homme, il y a cette chose très curieuse, c'est que, à cause de l'esprit, l'imagination est l'intermédiaire entre le corps et l'esprit. L'imagination parfaitement éduquée. Et c'est pas commode, parce qu'on ne l'éduque jamais directement, l'imagination. Elle n'est pas immédiatement éducable, mais toujours indirectement. C'est ça, il faut être très astucieux pour dominer l'imagination. Et c'est pas commode, c'est une des choses les plus difficiles à éduquer, d'avoir une éducation entièrement humaine et non pas une imagination qui va du côté instinctif. Parce que comme l'imagination est médiane, elle est métaxue, intermédiaire entre l'esprit et la vie végétative, l'imagination très facilement est saisie par le point de vue de la vie végétative, par l'instinct. L'instinct sexuel, l'instinct de la concupiscence. Alors on a une imagination qui est contraire à la vie humaine. Elle nous rabaisse. Et puis l'imagination peut être entièrement au service. Non seulement elle peut, mais elle doit. Elle doit être entièrement au service de la vie humaine et de la finalité spirituelle, contemplative. Bon, l'ennemi le plus terrible de la vie contemplative, c'est l'imagination. C'est vraiment l'ennemi le plus terrible de la vie. Parce qu'on le porte en soi. C'est un ennemi familial. C'est mon imagination. Non, mon imagination, c'est moi. Et quand on est pris très fort par l'imagination, l'imagination capte en nous, tu vois, elle nous fait semblant, elle nous tente de faire croire que nous sommes saisis par l'imagination, c'est notre personne. Alors, l'imagination n'est pas notre personne, elle est du côté de l'individu. C'est sûr. Et c'est extrêmement important d'éduquer l'imagination dès la jeunesse. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que les mathématiques sont imaginatives. Une imagination très distinguée, c'est-à-dire très intellectuelle. Mais c'est l'imagination. Les mathématiques augmentent l'imagination. Et dans le progrès actuel, ce qu'on appelle le progrès, entre guillemets, dans le progrès actuel, au fond, l'éducation, l'imagination est captée par le point de vue mathématique. Donc, l'imagination n'est pas éduquée humainement. Elle est éduquée par les mathématiques, c'est-à-dire qu'elle est développée au point de vue intellectuel, et comme elle est développée du point de vue intellectuel qui n'est pas vraiment intellectuel, les mathématiques restent toujours un intermédiaire. Les mathématiques restent toujours liées au divisible, donc à la quantité. L'imagination semble très éduquée chez un mathématicien, mais en réalité, elle n'est pas éduquée humainement. Si je prends humainement la finalité humaine, on est humain lorsque notre finalité est entièrement respectée. Et la finalité humaine, elle est d'une part l'amitié, d'autre part la contemplation. Les mathématiques ne nous éduquent ni vers l'amitié, ni vers la contemplation. Les mathématiques nous éduquent dans un champ d'activité humaine et de domination humaine. On veut, par les mathématiques, dominer. C'est extrêmement curieux, ça, de voir que notre civilisation dans laquelle nous sommes est une civilisation qui s'empare de l'imagination d'une façon intellectuelle pour nous faire miroiter un idéal qui n'est pas humain. Un idéal de domination du monde physique par les mathématiques, de domination du monde physique, et ce n'est pas une véritable domination, parce que ce n'est pas ordonné à notre finalité. Il n'y a pas de finalité en mathématiques. C'est un domaine humain sans finalité, donc sans repos. Le mathématicien n'a pas de repos. Les mathématiques ne donnent pas de repos. Ça fait donc des personnes qui seront très tendues par le domaine mathématique et qui n'auront plus la capacité de se reposer. Alors, quand ça va avec le progrès économique qui voudrait un travail incessant, jour et nuit, puisque le prix des machines doit être dépassé par le travail. Et il faut que la machine travaille, elle n'a pas besoin de dormir, la machine. Et parce que la machine n'a pas besoin de dormir, l'homme qui est attelé à la machine, n'a plus besoin de dormir. Alors on fait l'équipe du soir, de la nuit et l'équipe du jour. Et ça, ça montre que l'homme devient esclave de la machine, par le point de vue économique. Il est obligé. Oui. Notre humanité se dégrade de cette manière. Elle s'abîme. Elle ne devient plus humaine. Parce que c'est pas humain, ça. Sans regarder la Bible, où Dieu a créé le jour et la nuit, donc c'est Dieu qui a créé la nuit pour se reposer. C'est Dieu qui l'a fait. Et il l'a fait pour l'homme. Donc c'est très net, c'est aller contre le désir de Dieu de faire travailler l'homme nuit et jour pour payer, amortir les machines qui coûtent très cher. Et l'homme devient esclave de cela. Ben, vous voyez, c'est très astucieux comme tentation. Et les tentations mathématiques, économiques, qui fait que l'homme devient esclave de la machine. C'est le nouvel esclavage. Il y a l'esclavage premier de l'homme à l'égard de l'homme. Il n'était pas drôle, celui-là, c'est sûr. Mais il était moins terrible que l'autre, que le nouvel esclavage qui fait qu'on est esclave des mathématiques, esclave de la technique, esclave du rendement, esclave amortir le prix des instruments. La machine est un instrument. Hein. Et cet instrument, à la place d'être serviteur de l'homme, c'est l'homme qui est serviteur de la machine. Tout ça, c'est à cause de l'imagination. L'imagination est quelque chose de terrible. Quand on disait que l'imagination est la folle du logis, on le voit maintenant. Elle est la folle de l'humanité. Parce que c'est plus seulement du logis, mais c'est de l'humanité. Et la folle du gouvernement. Pris par les mathématiques. Il n'y a plus de finalité. La cause finale supprimée. Et on raisonne avec une cause exemplaire. La cause exemplaire qui existe en mathématiques. Et qui existe magnifiquement en mathématiques. La cause exemplaire, c'est l'homme qui l'a fait. Il a fait selon ses dimensions. Et la cause exemplaire ne devient plus seulement individuelle, mais elle devient mondiale. L'économie devient mondiale. C'est très curieux, et c'est comme ça, par la machine. Il faut bien voir comment ça se fait, ça. Il n'y aurait jamais une économie mondiale pour le laboureur qui a sa petite ferme. Non. Terriblement, au contraire, sauvegarde son individualité. Tandis que l'individualité se perd et devient le mondialisme par ce point de vue de l'économie qui n'est plus humaine, qui est commandée par une imagination folle, une imagination prise par les mathématiques. Je crois que là, il y a quelque chose de très important à saisir pour comprendre notre monde d'aujourd'hui. Il faut aller jusque-là si on veut saisir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut contre cela ? Garder l'individu au service de la personne. Parce que, au fond, ce mondialisme, c'est l'individu qui dépasse la personne. C'est l'individu, au point de vue de la quantité, qui dépasse la qualité et qui commande la qualité. L'homme, par son travail, c'est qualitatif. Le travail à la machine n'est plus qualitatif. Ou du moins, a beaucoup de peine de garder sa qualité. Parce que on a l'excuse de la machine. Ce n'est pas moi qui ai fauté, mais c'est la machine. Et dans le péché originel, le péché originel est dépassé aujourd'hui. Parce que c'est la machine. La machine est devenue Dieu. Elle remplace Dieu. Et les hommes sont normalement esclaves de la machine. Ça devient le fruit du travail de l'homme. Les machines sont de plus en plus compliquées, sont merveilleusement compliquées. Il n'y a pas que l'auto, il n'y a pas que l'avion. C'est déjà des machines assez bien, mais il y a d'autres machines. C'est extraordinaire de voir le développement de la machine dans la vie humaine. Et vous-même, au noviciat, on vous sépare de la machine qui, avant, vous saisissait, et on essaie de vous maintenir dans un climat humain. Il n'y a pas de machine. Mais très vite, on est repris par le mondialisme, forcément. C'est le monde. Et le monde entraîne la vie religieuse dans ce point de vue de l'économie. Parce qu'on est dans ce monde. Vous voyez, c'est très curieux de voir comment l'individu va l'emporter sur la personne. C'est-à-dire, par le point de vue mathématique, car le point de vue de la quantité, le travail, c'est d'abord le travail. Le travail va rendre l'homme esclave. Donc, l'individu est complètement pris, relatif, et qui fait que l'esprit et le cœur et l'amour, l'esprit et l'amour ne peuvent plus se développer. On n'a plus le temps. Il faut, à tout prix, avec le point de vue de la rivalité mondiale, au point de vue économique, on n'a plus le temps. On est obligé de suivre. Autrement, on devient pauvre. Et on devrait opter pour la pauvreté qui sauvegarde la personne contre le point de vue économique qui supprime la personne. Vous voyez, la grande tentation d'aujourd'hui, c'est ça. Et cette grande tentation, elle existe au niveau personnel, parce qu'il faut vivre, il faut élever une famille. Elle existe au point de vue politique, pour que l'économie demeure, pour qu'on ait toujours la possibilité d'avoir un crédit international. Puisse, d'un point de vue international, dominer. Et si on ne domine pas, on est obligé assez rapidement, ça va très vite, de disparaître. Donc on vit actuellement avec cette espèce d'épée de Damoclès sur le dos de tous les pays. Alors par le fait même, le point de vue de la famille disparaît, il faut sauver son point de vue économique et le prestige. Et on est comme dans ça. Alors tout ça, c'est la place du corps. C'est le point de vue de l'individu. Alors nous devons, au point de vue philosophique, le saisir. Le corps est limité quand il est substance par rapport à l'âme. Mais le jour où l'âme disparaît, on fait disparaître l'âme, elle n'existe plus. Le jour où on ne veut plus disparaître l'âme, l'individu devient total, devient la personne. La personne se ramène à l'individu. Et l'individu doit rester maître de la situation. Et pour rester maître de la situation, il faut qu'il accepte le progrès. Autrement, il disparaît. Qu'il accepte le progrès, et le progrès le rend serviteur de l'instrument. Vous voyez, c'est le problème du corps, ça. Normalement, le corps est instrument de l'âme, mais instrument conjoint. C'est-à-dire qu'au point de vue de son être, le corps fait partie de ma personne. Je ne peux pas être une personne sans mon corps. Et mon corps fait partie de ma substance. Elle est la substance matérielle de la personne. Donc une partie conjointe. Pour être une personne humaine, je dois respecter mon corps. Et je dois avoir sur lui un regard de vérité. Puisqu'il est conjoint à mon âme, qu'il fait partie de ma personne, partie matérielle, mais partie substantielle. Mon corps fait partie de ma substance, donc il fait partie de ma personne. Et je ne peux pas supprimer ça. Quand sera toujours partie de ma personne. Mais au point de vue de ma finalité me permet de dépasser mon corps. Puisque ma finalité est le point de vue de l'amitié et le point de vue de la contemplation. Point de vue de l'amitié. La véritable amitié n'est pas dans le don du corps. Il y a la tentation permanente de croire que la finalité est dans le don du corps. Ça, vous voyez, la tentation de la concupiscence. Et toutes les erreurs au point de vue sexuel proviennent de ça. C'est qu'on considère que le corps fait partie intégrante de ma finalité. Or, ma finalité, elle est l'amitié. Et l'amitié, c'est le don des personnes. Et non pas le don des corps. C'est le don des personnes. L'amitié permet le dépassement de l'exigence propre du corps. Vous voyez, c'est une lutte directe contre l'amitié. Ce qui se passe dans l'homosexualité, qui est le don du corps, si je regarde le don du corps, très bien, c'est ce qu'au fond, l'État regarde actuellement. On ne regarde plus la finalité, absolument plus. On ne regarde plus la finalité et ça gagne exactement la théologie. On est pris par ça, parce que c'est un danger immédiat. Et le danger immédiat nous fait oublier la finalité. Mais la véritable amitié est le remède le plus efficace contre le point de vue de la matérialisation de la finalité par rapport uniquement au don du corps. Donc il faut être très attentif à ça, parce que c'est la possibilité de lutter contre ces tentations qui mettent le corps avant tout. Et donc, tôt ou tard, matérialise tout. Et au début, le don des corps peut nous paraître comme quelque chose de très grand, de très beau. C'est sensible. Mais ça reste sensible. Ça ne dépasse pas le sensible. Et ça demeure horizon sensible. Qui fait que la partie spirituelle de l'homme et de la femme ne se développe pas. Il n'y a plus de finalité. Il n'y a plus de finalité, nécessairement, on tombera dans l'efficacité pure. Et comme l'efficacité pure est fatigante, on tombera dans le point de vue sexuel. La jouissance du don des corps. Et le corps est le lieu qui nous attire vers ça. Nous portons en nous la tentation. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de particulièrement difficile à dépasser, parce que nous portons en nous le plus de la tentation. Notre corps a soif de repos, de jouissance immédiate. Notre corps a soif. Si nous traitons notre corps d'une manière trop brutale, c'est comme un animal, un cheval, quand on tire trop sur lui, il se met à ruer. Et le corps, quand on tire trop sur lui, il se met à ruer. Et il exige qu'on relâche. Il faut être très attentif à ça. Parce qu'on doit le respecter, le corps. Et comprendre que, par le fait même, il est ordonné à la première finalité qui est l'amitié. Mais c'est aussi dans l'amitié que les premières erreurs se font. Il faut être très attentif à ça. L'amitié peut être quelque chose de merveilleux pour la contemplation, pour le dépassement de la contemplation. C'est le premier dépassement du corps. C'est l'amitié. Mais l'amitié peut se corrompre et être le premier dépassement, le faux dépassement du corps par la jouissance. La jouissance peut paraître spirituelle, mais elle n'est pas spirituelle. Elle reste enfermée en nous. On jouit. on jouit, c'est pas l'autre qui jouit, c'est soi-même. Or, l'amour est extatique. Il regarde l'autre. Il y a un renversement dans la jouissance qui fait qu'on se regarde en premier lieu. Et quand on se regarde en premier lieu, on ne peut plus corriger le désir du corps de jouir et d'avoir sa finalité en lui-même, dans le corps. Notre finalité n'est pas dans notre corps, elle est au-delà. Quand j'aime une personne, c'est la personne que j'aime, et donc son âme, son intelligence, son amour. C'est le dépassement. S'il n'y a plus ce dépassement-là, je m'enfuis dans l'individualité de mon corps et je tombe alors dans une amitié de jouissance. Et une amitié de jouissance n'est plus l'amour de l'autre, c'est premièrement l'amour de soi. Il faut bien saisir ça, parce que notre corps est donc comme une espèce de possibilité de refuser notre finalité spirituelle, ou au contraire, de la dépasser, du moins refuser notre finalité spirituelle autrement, de l'atteindre, en dépassant notre corps. Vous voyez, c'est ce qu'il y a de tout à fait particulier dans le corps, c'est que nous portons en nous les tentations les plus subtiles au point de vue de l'amour. S'aimer est très bien quand cet amour est second. Mais s'aimer quand cet amour devient premier, c'est l'amour du corps. Et l'amour du corps fait que on perd sa finalité par l'amour de son corps. On se matérialise. Donc vous voyez, c'est au fond quelque chose de très profond qui exige de nous une attention très spécial pour considérer le corps au point de vue substantiel. Donc je ne suis pas libre, je ne peux pas faire de mon corps tout ce que je veux. Mon corps s'impose, il est substantiel, partie substantielle de ma personnalité, partie matérielle mais substantielle. Donc je suis obligé de l'accepter, je dois l'accepter. Et tous ceux qui refusent de considérer leur corps sont dans une fausse voie. Oui, l'ascèse poussée à l'extrême ferait la négation du corps. Et on le voit dans certaines spiritualités. Et le refus alors du corps, c'est contre le point de vue humain. C'est quelque chose qui est intolérable et un non-sens. Puisque le corps est une partie substantielle de la personne. Je dois l'accepter. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Mais au point de vue de la finalité, de l'usage du corps, il peut y avoir une terrible tentation de m'enfermer dans l'épanouissement de mon corps, dans la jouissance. Alors je m'enferme dans un faux repos. Oui, La contemplation est un repos dans ma finalité. L'antithèse de ce repos contemplatif, c'est la jouissance de mon corps, où je me repose dans la jouissance de mon corps. Et dans la jouissance de mon corps, je considère mon corps comme fin. Et je demande à mon corps de donner tout ce qu'il peut me donner comme jouissance. Et à ce moment-là, je m'oppose à ma vraie finalité. C'est l'anti-finalité. C'est très, très mystérieux que je porte en moi-même cette tentation d'anti-finalité. Et c'est pour ça que si facilement on succombe, on ne cherche plus notre finalité vraie, on cherche l'immanence dans la finalité. La finalité me fait sortir de moi. Chercher l'immanence dans la finalité, c'est regarder mon corps comme ma fin. C'est regarder la jouissance de mon corps comme ma fin. À ce moment-là, je suis anti-personnaliste. Et je mets l'individu avant la personne. Puisque je suis individué par mon corps. C'est pas mon âme qui m'individualise. Vous voyez, tous les péchés d'envie, de jalousie, viennent de ce primat du corps, fondamentalement, avec l'amour. C'est que je ne peux pas supporter qu'un autre passe avant moi. Je ne peux pas supporter qu'un autre passe avant moi. C'est que je considère que l'individu devient absolu. Qu'un autre passe avant moi, c'est normal. Si je cherche la vraie finalité, parce que je me dépasse et ma finalité devient spirituelle. Elle est spirituelle. Alors à ce moment-là, il n'y a plus cause de jalousie. C'est très subtil, mais au fond, c'est l'individu toujours qui veut passer avant la personne. Or, le corps m'individualise. Être individualisé, c'est bon, mais ce n'est pas l'absolu. L'individu est toujours parti d'un tout. En tant que j'ai un corps, je suis parti d'un ensemble. C'est pas par mon âme que je suis parti. Mon âme, au contraire, elle a sa finalité propre. Mon corps n'a pas de finalité propre. Alors, parce que mon corps n'a pas de finalité propre, mon corps doit être instrument. Il est substance au point de vue de l'être. Il est individu. Il est instrument, je veux dire. Il est instrument au point de vue finalité. Alors que très facilement, j'oublie ça. Et je veux regarder comme mon corps qui me donne ma finalité. Or, quand mon corps me donne ma finalité, je me retourne sur moi-même. Et je ne veux pas me dépasser. Et ma personnalité est à ce moment-là enfouie par mon individualité. C'est mon individualité qui me saisit entièrement. Et je veux que l'individualité me donne tout ce que j'attends de la finalité. Donc, la joie, le repos. Me reposer dans ma vin. Je ne peux pas me reposer dans mon corps. Parce qu'il n'est pas ma vin. Il y a donc, en moi, au point de vue philosophique, il y a donc en moi cette lutte la plus profonde. C'est le dépassement de mon corps pour découvrir ma vraie finalité. Parce que mettre dans mon corps la finalité, c'est une erreur. C'est donc imaginatif. Nous retrouvons l'imagination qui joue ce rôle terrible de considérer que mon corps va me finaliser, va être pour moi source d'un bonheur immanent. Ça, c'est l'imagination qui fait ça. Et alors, l'imagination, dans un peuple décadent, est nourrie par les images, par la propagande. Toutes les propagandes érotiques, c'est toujours trouver dans l'homme son lit, sa fin. C'est supprimer la finalité. C'est pour ça que je crois que dans le monde d'aujourd'hui, il faut être farouchement finaliste, mais une vraie finalité, la vraie finalité de l'esprit. Je dis farouchement parce que on est dans un milieu qui, au fond, est tellement fort que si on se laisse aller, on est emporté très vite. Même des êtres spirituels peuvent être très vite emportés. Le novice a l'avantage qu'il est dans une générosité de novice. Mais quand cette générosité de novice tend à disparaître, on est beaucoup plus à l'écoute de ce qui se fait autour de nous. Et on se laisse emporter. On peut dire que la culture moderne est l'exaltation du corps. Je crois que c'est juste de dire ça. Que notre culture moderne est l'exaltation de notre corps. Eh bien, être une culture qui devient l'exaltation du corps est toujours une culture décadente. C'est connu que le phénomène de l'homosexualité est le phénomène d'une fin de génération, d'une fin de culture de génération. C'est le signe d'une dégradation. Alors, je crois qu'il faut qu'on soit très attentif à ça. Très attentif, vous comprenez bien, hein, bien le comprendre. Et puis dépasser, parce qu'il ne faut pas être tenté par ça, surtout pas, ce serait encore une tentation. Ce serait dire, oh, il faut être de son temps, hein, oui. Il faut être de son temps. Non, il ne faut pas être de son temps, ne soyez pas du monde, Saint Jean le dit. Et au point de vue philosophique, le philosophe dira la même chose. Ne regardez pas ce qui se passe à côté de vous, parce que vous risquerez de le voir et d'être saisi par ça en disant « Ah, oh, mais tout le monde le fait. » Et tout le monde le fait n'est pas ce qui est une règle de vie. La règle de vie vient de la finalité. Oui. Regarder le corps comme un élément essentiel et substantiel de la personne exige d'avoir une vision métaphysique du corps. Donc, il est substantiel, il s'impose. Je ne l'ai pas choisi. Vous n'avez pas choisi votre corps. Tout l'atavisme est dans le corps. Alors aujourd'hui, on parle de la mémoire du corps. En réalité, c'est l'atavisme. Votre corps dépend de mes parents, il dépend de mes grands-parents, et il dépend de tout cet atavisme. Ça va très loin. Hein. Et en dernier lieu, du péché d'Adam. Et je suis en dépendance du péché d'Adam. Au point de vue du péché, Adam est très proche. Hein. Je lui dis bonjour tous les jours. Au point de vue du péché, c'est évident. Puisque les conséquences du péché, alors ça, c'est de la théologie. Parce qu'au point de vue philosophique, qu'est-ce que signifie Adam ? C'est très difficile. C'est pas le premier homme. C'est très difficile de savoir exactement. Mais on peut quand même comprendre ce que c'est que l'atavisme. Ça, philosophiquement, on doit le comprendre. Et au point de vue de la personne, au point de vue de l'individu, c'est capital. Je dépends de mon milieu. Radicalement et fondamentalement, c'est mon corps, par mon corps. Je dépends de mon milieu. Je dépends de mon pays. Il y a tout l'atavisme. L'atavisme africain n'est pas l'atavisme européen. Et dans les européens, c'est pas encore la même chose que l'atavisme de l'Amérique. Donc il y a tout ce problème-là qui regarde la personne. La personne implique ce point de vue individuel. Et je le sais. Et je dois le constater, et je n'en peux rien. Je n'en peux rien. On ne m'a pas demandé de choisir. On ne m'a pas demandé de choisir d'être européen ou d'être américain ou d'être africain. On peut aimer plus après, ça c'est en dehors de l'atavisme. Cet atavisme est substantiel. Et je crois que c'est très important pour même pour le problème de la création de l'âme. Parce que si vous affirmez que l'âme est créée tout de suite, dès le début, la puissance de l'âme sur l'embryon, sur le fœtus, est quelque chose de tellement fort que l'âme domine surtout. Alors, c'est pas ce qui se passe. Vous avez l'individu qui est marqué par l'atavisme. Donc, ce qui prouve qu'au fond, dans la pensée de Dieu, dans la sagesse divine, l'atavisme devait jouer son rôle. Et l'âme étant créée ensuite, le spirituel, la finalité spirituelle vient après. Il y a d'abord ça. Au fond, l'atavisme c'est le respect du devenir. Je suis un être qui devient essentiellement. Et mon premier devenir, c'est le devenir de mon corps. Et puis, Dieu a créé l'âme. Mon corps n'aurait pas tellement d'importance si mon âme était créée tout de suite. Parce que mon corps serait complètement dominé par mon âme. Je sais bien que, au point de vue philosophique, je ne peux pas parler du péché originel. Ça, c'est l'affirmation du chrétien. Mais je peux affirmer que l'âme est quand même une puissance spirituelle qui est très grande. Et mon corps est dominé par ça. Alors, si l'âme est créée dès le point de départ, est-ce que l'atavisme resterait encore? Alors que l'atavisme est une force que je constate, qui est très forte. La mémoire du corps, c'est l'atavisme, ça. Là, c'est sûr. J'ai été marqué par toute cette période mystérieuse de ma vie, cette période silencieuse de ma vie, où j'étais porté par ma mère. Et cette période silencieuse joue un rôle très important. Ça, c'est sûr, on est marqué par ça. Et ça, c'est le premier devenir. Hein. Votre premier devenir, il s'est réalisé dans le sein maternel. Déjà à la naissance, il y a un capital qui est dans le petit enfant. Mais il a encore un devenir énorme à faire. La première éducation. Et ce devenir continue toujours. Alors, quand mon corps commence à décliner, si mon âme ne grandit pas, je suis dans le déclin. Si mon âme grandit, alors le devenir devient de moins en moins important. Et je deviens de plus en plus un être spirituel qui aspire à vivre une vie spirituelle. Bon, le devenir est moins important à partir de 70 ans, sûrement. Alors vous sentez davantage votre corps, alors vous diriez que le devenir est plus grand. Mais le devenir corporel, sentir son corps, ce n'est pas le devenir. Si le corps a atteint sa taille, sa dimension, il se tait. Il est dominé par l'âme. Mais il faut qu'il soit dominé par l'âme. Mais l'éducation, ce sera cette lutte entre le devenir du corps et l'aspiration de l'âme qui regarde la finalité, qui regarde quelque chose qui est au-delà du se dire. Alors on peut dire à ce point de vue-là que la personne, c'est la victoire de l'être sur le devenir.